moins la première partie et j'espère aborder déjà la deuxième, pour laquelle je vous ai préparé une feuille aussi. Voilà. Y a-t-il des questions préalables, des commentaires ou sur les deux premières strophes? Oui, Père.
Là, c'était sur la, celle qu'on a étudiée là.
La strophe 2.
La strophe 3, là.
La strophe 3, que nous allons étudier. Oui, eh bien.
C'est là que j'avais dit composer.
Ah !
C'est trop tôt.
Ça dépend, peut-être ça peut nous mobiliser aussi. On peut peut-être la recueillir et puis qu'après elle nous stimule. On va voir.
C'est la première.
Ah, c'est déjà dans le texte.
Aux lampes de feu.
Oui.
Très ardent.
Oui.
Est-ce que nous aurions là une citation implicite.
Oui.
D'Apocalypse 1, 4 et 4, 5.
Alors, on va noter ça en réserve. Apocalypse
1,
4
et chapitre 4, verset 5.
D'accord, ben on va y venir. Il semble quand même dans le texte que ce soit plutôt le texte de Genèse avec les lampes de feu du sacrifice d'Abraham. Hein, mais on va revenir là-dessus.
Oui, mais il en parle d'ailleurs dans le texte.
Oui, voilà, oui. Il ne mentionne pas l'Apocalypse, mais nous allons... Et vous pourrez lire le texte, Père, à ce moment-là, de l'Apocalypse que vous voulez alléguer à votre démonstration.
1.4, c'est dans l'adresse.
Oui.
Jean ou cette église, etc.
Oui.
Là, il dit, par, il écrit, il leur parle, par, il est, il était, il vient.
Oui.
Par les sept esprits présents devant son trône.
Oui.
Et par Jésus-Christ, témoin fidèle.
Oui.
Là, on a quand même une formule trinitaire.
Oui. Et alors, les lampes?
Alors, je retrouve cela, chapitre 4, verset 5.
Oui.
Du trône par des éclairs, des voix, etc. Et sept lampes de feu brûlent devant lui, les sept esprits de Dieu.
Ah oui, sept lampes de feu brûlent devant lui.
C'est pour ça que ça m'a...
Ben, Saint Jean de la Croix ne le mentionne pas explicitement,
implicitement.
Ben oui, bien sûr, oui, c'est intéressant, évidemment. Ben, je vous fais remarquer, chers étudiants et étudiantes, que notre professeur émérite d'écriture sainte du Studium donc est un étudiant modèle, car il a travaillé, il a préparé, il a fait une recherche et il présente une question. Donc je vous prie de relever cela. Merci beaucoup, Père Blois, c'est une leçon pour cette jeunesse. Voilà. Oui, une deuxième question. Je relève, c'est intéressant. Mais je trouve que ça me mobilise beaucoup plus quand il y a des questions préalables. Alors, Père Thomas.
Dans la déclaration, après l'énoncé de la strophe numéro 3,
oui.
Il y a en quelque sorte...
On est dans la B, toujours. Oui. On est d'accord.
À la dernière phrase,
oui.
Il y a en quelque sorte une définition du véritable, de celui qui aime véritablement.
C'est le paragraphe 1, on est d'accord,
oui.
Non
hein? Oui, oui, oui.
À la fin, oui. Et peux-tu dire la phrase exacte à laquelle tu te réfères?
Porque el verdadero amante entonces está contento.
Oui. Cuando? Todo lo que él es en sí, vale, y tiene y recibe, lo emplea en el amado, y cuanto más ello es, tanto más gusto recibe en darlo. Oui. Ben c'est le texte original que vous êtes censé connaître. Voilà, en chinois. Bien. Non, c'est la langue originale, Père. D'accord? C'est la langue d'un docteur de l'Église. Hein. Voilà. Bien. Peut-être tu peux traduire pour le bon peuple.
Je sais pas très
tu vois une question justement à ce sujet-là?
Oui, à propos de la Trinité, parce que c'est, on a l'impression que c'est...
Donc, car celui qui aime véritablement, alors, est content lorsque, todo lo que él es en sí, lorsque tout ce qu'il est en lui-même est vaut et a et reçoit, il l'emploie pour l'aimer, envers l'aimer, et plus cela est, plus il en reçoit, plus il le trouve de goût à le donner, c'est ça?
Oui.
Bon, alors...
Ma question, c'est que dans le prologue de la deuxième strophe, et puis aussi dans le prologue général, on était dans le contexte, effectivement, de la Trinité.
Oui.
Et est-ce que là, il n'y aurait pas... il l'applique pour l'âme.
Oui.
Pour Dieu et l'âme, oui. Mais aussi aux relations intra-trinitaires. Cette belle définition ne peut-elle pas L'idée m'est venue parce que j'ai lu quelque chose de très semblable chez Jean-Paul II à propos des relations intra-trinitaires.
Et il y a plus de... On peut plus rien faire ? Vous voyez... pardon. Donc, je vais noter ça, 3-1. Je crois que là, c'est une question, à partir de ce texte-là, c'est une question plus générale et qui concerne la vie flamme, mais aussi toute l'œuvre de Saint Jean de la Croix. Il est clair pour Saint Jean de la Croix que la communion trinitaire, distinction des personnes et communion, est le modèle exemplaire de notre vie théologale. Et on le voit dès le Romance. Donc ce qu'il dit de l'amour pour l'âme est évidemment pris en Dieu, vient de Dieu, jaillit de Dieu, oui je crois, très sérieusement. Ouais. La communion trinitaire est le modèle, l'exemplaire, le paradigme, pour parler savamment, de notre vie théologale, oui, ouais, certainement. Bien, d'autres éléments ? Alors, merci beaucoup. Je vois que voilà, c'est bien, c'est tout à fait le but de la session, que ça stimule la réflexion et que ça la prépare aussi. Alors, abordons cette strophe 3. Nous avons donc eu à la strophe 2 une dimension très, très nettement trinitaire, distinction des personnes, communion des personnes, de la Sainte Trinité. Maintenant, dans la strophe 3, nous allons avoir une sorte de perspective, en tout cas au début, avec le thème symbolique des lampes de feu, des splendeurs et des obombrations. Ça veut dire de 2 à 17 à peu près, des paragraphes 2 à 17. Nous allons avoir une perspective sur le Dieu 1. Le Dieu 1 en ses attributs et ses perfections. C'est le même Dieu qui est le Dieu communion trinitaire et qui est le Dieu unique, le Dieu 1. De Deo uno et trino. D'accord ? Le Dieu 1 est trine. Donc c'est le même. Alors maintenant, on aura plutôt ce point de vue-là sur le Dieu 1 et les perfections de l'unique divinité. De chacune des personnes, car chacune des personnes est Dieu et chacune des personnes est ses perfections. Eh oui, c'est toujours la loi de la Trinité. Hein? D'accord? Dieu est amour et il est sa bonté et il est cet amour, il est sa justice, etc. Et chacune l'est, chacune des personnes l'est. Eh oui, mystère des mystères. Mais évidemment, là, c'est davantage une contemplation du mystère du Dieu 1 dans ses admirables perfections qui sont communiquées à l'âme. Non seulement communiquées à l'âme, mais réfractées par l'âme. L'âme est tel un prisme qui réfracte les perfections divines, les attributs divins. Bien. Alors, rentrons davantage dans le détail. Bon, donc nous affrontons une strophe qui est la plus longue, non pas comme strophe, mais comme commentaire. Nous verrons pourquoi, hein, surtout dans le deuxième temps. Mais enfin, ce commentaire de la strophe 3, c'est le tiers de l'œuvre, plus du tiers de l'œuvre. Hein, donc, quand même. Alors, un premier élément, Jean de la Croix a conscience de ne toucher que ceux qui ont l'expérience et de n'être clair que pour eux. Ça tombe bien ou ça tombe mal, quoi. Bon, pour nous. Ce n'est pas un refus de s'adresser à tous, mais c'est vrai, il nous parle du sommet de la montagne de l'Union, et il rejoint ceux qui sont les familiers de Dieu, ou plus ou moins, ou du moins ceux qui désirent l'être. Voilà, donc nous affrontons un texte quand même plus difficile encore. Et de fait, page 973 ou paragraphe 1, il dit que si le lecteur n'a pas d'expérience, ça va lui paraître peut-être un peu obscur. S'il l'a, ce sera clair et savoureux. Eh oui. Bien. Je crois que, je tiens à le dire, l'attitude qui est requise de notre part, comme étudiant de la vie flamme, et donc comme disciple de Jean de la Croix, temporairement ou définitivement, ce que j'espérerai, bien, l'attitude requise, l'attitude méthodologique, c'est celle que nous donne, que nous a donné le Père Lethel, hein, dans sa thèse « Connaître l'amour du Christ qui surpasse toute connaissance », vous pourrez vous y référer. C'est à la page 39, la note 49 que je vous recommande. Page 39, note 49. « Connaître l'amour du Christ qui surpasse toute connaissance ». On entre dans la théologie des saints à condition de se situer dans la communion des saints, c'est-à-dire à sa place de pauvre pécheur, en se mettant toujours très au-dessous des saints et jamais au-dessus ni même à égalité. Voilà un principe méthodologique qui me paraît fondamental. Donc nous nous mettons à l'école des saints dans une attitude de disciple. Et il ajoute aussi, nous nous laissons critiquer par eux, et la critique des saints est une critique constructive, car c'est dans la charité. Page 39, note 49. Voilà. Donc, les saints voient plus grand que nous, hein, c'est sûr. Bon, alors, mais je crois ça, cette attitude assez fondamentale. Bien. Donc, pour Jean de la Croix, le Magnificat continue, l'âme encarece y agradece. L'âme met en relief, renchérit et remercie. Hein? Elle reçoit de son époux beaucoup et de grandes connaissances de lui-même, toutes amoureuses. Donc, nous sommes placés sur le plan de la connaissance aimante, connaissance dans l'amour, sur le plan du don et de la gratuité. De quoi s'agit-il dans cette strophe ? Il s'agit d'une expérience intérieure de Dieu en lui-même. De Dieu essentiellement, on peut dire, dans son esse, son être. Il s'agit d'une expérience vivante. À partir de l'agir d'une action de Dieu dans la réalité humaine. Ça va être tout le poids du mot « sentir »,« sentir » chez Jean de la Croix. L'âme sent. Il va parler aussi du sens de l'âme. L'âme sent l'amour, la bonté, la miséricorde, tout ce qu'est Dieu en lui-même et ce qu'il donne à connaître de lui-même dans cette union d'amour. Donc, par la connaissance, l'homme reçoit en soi. Dieu se donne à connaître et à aimer. Et c'est ce que dira le Père Marie-Eugène dans un texte que je vous citerai demain en conclusion. C'est une quasi-expérience de Dieu. C'est une connaissance éprouvée. Une connaissance éprouvée dans l'amour et vitalement. Voilà. Donc, quand il est question de sentir et du sens, ce sentir qu'on retrouve chez Thérèse de Lisieux aussi beaucoup. Donc c'est un sentir de connaturalité, c'est-à-dire au-delà des limites, des lourdeurs, de la sensibilité. Hein? D'accord ? Bon, c'est quelque chose à creuser, hein? C'est pas tout ça. Bon. C'est une expérience unitive et illuminative tout ensemble, qui concerne toute l'intériorité spirituelle de l'homme, les puissances et le sens de l'âme. Une expérience élevante, enrichissante, qui entraîne la réciprocité. Extrême générosité et condescendance de Dieu, qui appelle à un amour d'amitié, à un amour sponsal. On avait l'amour filial davantage à la strophe 2, vous vous rappelez ? Bien. On va retrouver Esther, on va retrouver l'épouse du cantique. Il s'agira de rendre et de donner amour et lumière à celui qui a illuminé et comblé d'amour. Et c'est exactement la phrase citée par le Père Thomas. Celui qui aime véritablement est heureux lorsque tout ce qu'il est en lui-même et a et reçoit, il l'emploie pour l'aimer. Et plus cela est,
plus il reçoit de goût en donnant. Ça va? Bon. Donc c'est un amour d'amitié, de communion, qui porte son fruit de joie. Hein, la fruitio, c'est le fruit de l'amour. Donc on va voir que l'âme se réjouit, elle jouit, la fruition. Nous avions vu les fêtes de l'esprit dans la première strophe. Cette joie n'est pas superficielle, c'est pas une joie de surface, mais on va le voir, c'est dans les cavernes de l'âme. Il y a une question de caverne. Donc la joie est liée à la profondeur. C'est la joie au cœur des saints que le monde ne peut pas connaître, mais qu'il ne peut pas ravir non plus. Donc nous allons entrer dans cette confidence que Dieu fait de sa vie intime. Il communique ce qu'il est à ceux qui l'attirent dans sa vie intime. Ce n'est pas une communication extérieure. Dieu communique sa vie intime en attirant dans sa vie intime. La communication de Dieu ne nous laisse pas spectateurs, elle nous rend participants. Elle nous fait sentir ce que Dieu est en lui-même. Pourquoi ? En vue de quoi ? Pas pour qu'on soit là comme ça à jouir. En tout cas, ici-bas. C'est dans le sens d'une transparence. Le cœur humain est amené, l'âme humaine est amenée à réfléchir là où les perfections de Dieu. Ce n'est pas pour soi. Ça va? Voilà. Bon, c'est un petit peu une vision de synthèse de cette première moitié de la strophe, au moins. 3. Donc c'est bien de cette transparence qu'il s'agit avec ce symbole des lampes de feu. Paragraphe 2 à 8. Et puis splendeur et obombration 9 à 17. Donc page 974-980. Voilà. Ces lampes de feu. Est-il besoin de lire un peu ça? J'ai pas l'impression que vous êtes tellement au parfum. Alors, il faudrait qu'on lise 2 et 3, au moins, puis 6, ouais. Et puis 12, et puis 17. Donc, on a en gros 4-5 paragraphes à lire. Ça peut aller? Tu veux y aller, Pierre? 2 et 3.
Ouvre flambeau de feu. D'abord, il faut savoir que les flambeaux ont deux propriétés, qui sont d'éclairer et de donner chaleur. Pour entendre quels sont ces flambeaux dont l'âme parle ici, et comment ils éclairent et brûlent en elle, en lui donnant de la chaleur, il faut savoir que Dieu, en son être unique et simple, est toutes les vertus et grandeurs de ses attributs. Car il est tout-puissant, il est sage, il est bon, il est miséricordieux, il est juste, il est fort, il est amoureux, etc. Et autres attributs infinis et vertus que nous ne connaissons pas. Or, étant lui, toutes ces choses en son être simple, étant lui unie avec l'âme, quand il juge bon de lui en découvrir la connaissance, elle aperçoit distinctement en lui toutes ses vertus et grandeurs, à savoir omnipotence, sagesse, bonté, miséricorde. Et comme chacune de ces choses est l'être même de Dieu en un seul de ses suppôts, qui est le Père ou le Fils ou l'Esprit Saint, chacun de ses attributs étant Dieu même, et Dieu étant lumière infinie et feu infini, ainsi qu'il a été dit plus haut, de là vient que chacun de ses innombrables attributs resplendit et donne chaleur comme Dieu, et ainsi chacun de ses attributs est un flambeau qui éclaire l'âme et lui donne chaleur d'amour.
3.
Et pour autant, qu'en un seul acte de cette union, l'âme reçoit les connaissances de ses attributs, en même temps, Dieu mène et pour l'âme de nombreux flambeaux qui l'éclairent distinctement et lui donne chaleur, car elle a de chacun une connaissance distincte, et de chacun elle est enflammée d'amour. Et ainsi, en tous ces flambeaux, l'âme aime en particulier, enflammée de chacun et de tous ensemble, car tous ces attributs sont un seul être, comme nous avons dit. Et ainsi, tous ces flambeaux sont un seul flambeau, qui, selon ses vertus et attributs, éclaire et brûle comme de nombreux flambeaux. Pour cela, l'âme, en un seul acte de la connaissance de ces flambeaux, aime par chacun. Et en lui, elle aime par tous ensemble, ayant en cet acte la qualité d'amour par chacun, et de tous ensemble, et par tous ensemble. Parce que la splendeur que lui donne ce flambeau de l'être de Dieu, en tant qu'il est tout-puissant, lui donne lumière et chaleur d'amour de Dieu, en tant qu'il est tout-puissant. Et suivant cela, Dieu est désormais à l'âme un flambeau d'omnipotence qui lui donne lumière et toute connaissance touchant cet attribut. Et la splendeur que lui donne ce flambeau de l'être de Dieu, en tant qu'il est sagesse, l'éclaire et lui donne chaleur d'amour de Dieu en tant que sage, et ainsi Dieu lui sert désormais d'un flambeau de sagesse. Et la splendeur que ce flambeau de Dieu, en tant qu'il est bonté, lui apporte, donne à l'âme lumière et chaleur d'amour de Dieu en tant qu'il est bon. Et selon cela, Dieu lui est désormais un flambeau de bonté. Et, ni plus ni moins, il lui est flambeau de justice, et de force, et de miséricorde, et de tous les autres attributs qui se présentent ici conjointement à l'âme en Dieu. Et la lumière qu'elle reçoit conjointement de tous ensemble lui communique la chaleur de l'amour de Dieu, au moyen duquel elle aime Dieu, parce qu'il est toutes ces choses. Et de cette façon, en cette communication et manifestation que Dieu fait de soi à l'âme, qui est à mon avis la plus grande qu'il puisse lui faire en cette vie, il lui sert d'un nombre infini de flambeaux qui lui donnent connaissance et amour de Dieu.
Très bien. Ah, ça se corse, hein ? Ça se corse. Alors, évidemment, on a pris la partie la plus difficile, il faut bien la décortiquer ensemble. Vous pourrez lire les paragraphes 4, 5 et 6, le début du 6, nous le relirons le 6 la suite. Et vous verrez évidemment quelque chose d'allégeant, hein, explicatif par le recours à l'écriture. Ce symbole des lampes de feu, je vois qu'on vous a mis les flambeaux, est d'abord un symbole tout scripturaire qui vient d'une part, vous verrez au paragraphe 5, du Cantique des Cantiques. Cantique des Cantiques 8, 6, il le cite. L'amour est fort comme la mort, ses traits sont des traits de feu. Alors, dans la traduction latine de la Vulgate, c'est lampa, lampades eius, lampades ignis, atque flammarum. Lampades, et lampe. D'accord ? Bien. Donc, vous avez ce premier texte de référence. Le deuxième, ce sont toutes les perfections divines exprimées à Moïse sur la montagne, Exode 24, 6, 7. Donc ça, c'est 34, pardon, 6, 7. Donc c'est Dieu qui se communique, hein, de dos et qui fait passer ses perfections. Hein. Exode 34. Et puis vous avez ensuite, donc ça c'est au paragraphe 6, la référence à Genèse 15, 12, 17, donc ces torches ou brandons enflammés qui passent entre les morceaux d'animaux offerts par Abraham pour confirmer à Abraham la promesse d'une postérité. Donc voilà, trois grands textes de référence. Référence à la sainteté, à l'amour de Dieu, aux perfections divines détaillées. Alors, dans le texte que nous avons lu, Saint Jean de la Croix nous fait comprendre que ces lampes de feu désignent symboliquement les noms, les attributs, les perfections de l'unique Dieu. Ce Dieu unique que nous adhérons communément avec les autres monothéismes, hein, le judaïsme et l'islam. Bien. Évidemment, ça se rapproche un petit peu de ce qu'on appelle les fameuses mystiques de l'essence, de l'unité divine, dans la ligne de Plotin et ainsi de suite. Bon, je ne vais pas entrer dans ces détails. Mais certainement, Jean de la Croix a derrière ce qu'il a travaillé chez Denis, au sujet des noms divins. Grand texte de Denis, la théologie des noms divins. Donc au sommet de l'union, Dieu se communique tel qu'il est, dans la simplicité de son être et dans toutes ses perfections égales à son être. C'est ça qui est un peu difficile pour nous à digérer. Dieu est son amour, il est sa bonté, il est sa justice, il est sa miséricorde, il est sa sagesse, il est sa toute-puissance. Nous, nous sommes bons, ce sont des qualités de notre être. Mais en Dieu, ce n'est pas comme ça. Alors c'est très difficile à penser, évidemment, pour nous. Ces attributs sont le Dieu unique. Donc, ça veut dire, c'est impossible. Alors, et de plus, il faut ajouter à ça, c'est la conséquence, il n'y a pas plusieurs perfections en Dieu. Il n'y a pas de pluralité en Dieu. En Dieu, il faut nier le multiple, mais affirmer une perfection absolue, une qui contient toutes les perfections. Dieu ne se divise pas. Alors, pourquoi y a-t-il des lampes différentes ? Oui, c'est dans la réfraction sur nous, bien sûr. Mais il nous fait bien comprendre, et il y insiste, que chaque lampe porte toute la richesse de Dieu. Chaque lampe est tout Dieu. Donc tout ça, c'est très difficile pour nous, c'est sûr. Pourquoi nous ? Parce que nous sommes un peu limités. Et étant un peu limités, notre intelligence étant un peu limitée, donc elle connaît en décomposant. Et donc cette lumière une de Dieu, elle la décompose. De même que la lumière une du soleil, quand nous la captons à travers le prisme de notre oculus, de notre vue, on voit différentes choses. Comme l'arc-en-ciel, on voit bien différents reflets, différentes couleurs. Mais c'est une lumière une. Donc c'est à cause de nous que c'est pluriel. Est-ce que vous saisissez cela ? C'est assez important. Ça ne veut pas dire que ce ne soit pas réel pour nous. Mais en Dieu, tout cela est un. Bon, pourquoi ? Parce que Dieu est l'infini, est unité infinie et infinie simplicité. Dieu est simple, infiniment simple. Mais nous l'apercevons de manière distincte. Cette simplicité lumineuse, lorsqu'elle se projette sur nous et en nous, se réfracte en diverses lampes ardentes que l'on détaille et distingue. Voilà tout ce qu'il essaie de nous faire comprendre. Je crois que c'est une très belle expérience. Mais elle aime Dieu comme étant tous ses attributs, dit. Dieu est tous ses attributs. On multiplie les noms, mais la réalité est unique. Il est toutes ces choses dans la simplicité de son être. Ça va ? Bon. Et oui. Mais c'est vrai qu'aussi, Dieu, nous ne le connaissons qu'au moyen des perfections qu'il met dans les créatures aussi. Là, c'est une expérience qui a une certaine immédiateté, mais à cause de notre limitation, elle est forcément plurielle, quoi. Voilà. Vous pourrez aller jeter un petit coup d'œil aussi chez saint Thomas d'Aquin pour les thomistes, là. Prima. Emmanuel, par exemple. Prima. Question 13, article 2. À propos des noms divins, ces noms désignent bien la substance divine. Ils sont attribués à Dieu substantiellement, mais ils ne réussissent pas à le représenter. Ils signifient la manière dont nous le connaissons. Ils ne réussissent pas à le représenter. Ils signifient la manière dont nous le connaissons. Et le connaissons, ça veut dire que nous le recevons en nous. Ça va, ça ? Bon, voilà un premier point. Bon, ce qu'on voyait dans le paragraphe 2 aussi, c'est très net. Et on le voit paragraphe 3 et 4, un acte d'union, l'âme reçoit les connaissances, noticia, 4 aussi, cette communication et échantillon, muestra, ce serait un échantillon que Dieu fait de lui-même à l'âme. Donc c'est Dieu qui ouvre la connaissance, c'est pas l'âme qui s'en empare, elle reçoit cette connaissance. Donc c'est Dieu qui attire dans la connaissance de lui-même. Connaissance dans l'amour, une connaissance donnée, c'est une confidence d'époux. Quelque chose s'ouvre où l'âme est aspirée, elle est prise dans l'élan d'amour de celui qui se donne à connaître. Il dit au paragraphe 4 qu'elle est ravie. Elle est ravie, le rapt, le ravissement. Bien. Alors, on va jeter un petit coup d'œil au paragraphe 6, si vous voulez bien, parce que là, c'est très beau, c'est encore plus personnalisé. Donc, après Abraham, je suis désolé de sauter à pieds joints sur l'écriture, mais on l'a mentionné, très nettement. Bien sûr. puis nous allons revenir. Ah ben oui, Père. Alors donc, qu'est-ce que vous pensez maintenant, après tout ça, de l'Apocalypse? Quelle conclusion vous tirez de cet apport que vous avez fait?
La conclusion, c'est... Même Jean de l'Apocalypse, que c'est l'Esprit Saint.
Oui.
Vu le contexte.
Oui.
Bien que certains le... Premier verset, première citation.
Oui.
Tout le monde est d'accord.
Oui.
Mais pour le deuxième, certains nient que ce soit l'Esprit Saint.
Ah, vous dire certains, vous voulez dire les exégètes?
Oui.
Ah oui, pas l'Église catholique.
Icona,
alors, Père, moi je vois qu'une conclusion à cela, à votre contribution et votre intuition profonde, prophétique.
Qu'est-ce que tu vois?
Ben, moi je vois que si Saint Jean de la Croix ne mentionne pas le texte de l'Apocalypse qu'il connaît certainement,
oui,
qu'il a peut-être implicite, de toute façon l'écriture est une. Je veux dire, c'est bateau pour quelqu'un de, pour un béotien comme moi, de dire que l'écriture est une. Et donc, s'il mentionne Genèse, s'il mentionne Exode, s'il mentionne le Cantique, je veux dire, on peut très bien le lire avec Apocalypse en tenant cette unité.
Oui.
Et donc, et cette lecture pneumatologique.
C'est sûr que lui n'y renvoie pas.
Voilà. Non, c'est très clair. Il aurait pu, hein, parce qu'il habite la Bible. Hein.
Oui, ah ben oui.
Il habite la Bible, il aurait pu. Il y a d'autres textes de l'Apocalypse. Hein, qui... Il aurait fallu, je ne m'attendais pas à ça. Donc ce serait intéressant peut-être à la pause de vérifier dans la concordance si ces textes que vous mentionnez, oui, lui-même, il fait référence dans d'autres écrits. Ça vaudrait le coup parce que la concordance est excellente. Et à la fin, il y a toutes les citations de l'Écriture avec les références dans les textes de Jean de la Croix. Elle est exhaustive, cette concordance. Donc, on peut jeter un coup d'œil pour voir s'il le mentionne à un autre endroit, dans quel contexte. Ça vaudrait la peine.
Hein?
Voilà. Mais je pense qu'en vertu de ce principe d'interprétation catholique de l'unité de l'Écriture, de l'Ancien et du Nouveau Testament, puisque le même Esprit l'inspire, les a inspirés, l'inspire, donc ça me paraît légitime, non, Père?
Pardon, je commence. Les flambeaux, les flammes,
oui,
ces langues de feu font référence aux attributs de Dieu.
Oui.
Les attributs qui, enfin, dans l'âme,
oui,
fait l'expérience des,
oui,
des attributs de Dieu.
Oui.
Dans l'Apocalypse, on a les sept esprits de Dieu.
Oui.
Mais ça peut être écho autre chose que les attributs, peut-être les sept dons d'Esprit Saint, plutôt que les... Je ne sais pas, non?
Oui, c'est intéressant votre rapport, et en même temps, je pense que ça va dans le même sens. Pourquoi? Parce qu'il y a sept esprits qui peuvent faire référence à ce qui est classique dans la théologie classique, hein, de l'Église, les sept dons du Saint-Esprit. Mais de même que les perfections, c'est une perspective plurielle parce que nous décomposons, mais en fait, il y a une seule perfection de Dieu, pour Jean de la Croix, mais qui se réfracte en nous. Eh bien, de même, la théologie des dons du Saint-Esprit... pas encore chez Saint Jean de la Croix, mais ébauché chez Jean de la Croix et tel que le Père Marie-Jeanne la précise, elle irait dans ce sens-là aussi. Il y a, on dit, les dons et les sept dons, un chiffre de perfection, et les sept esprits, on s'inspire notamment d'Isaïe, hein, les sept esprits sur le Messie.
Hein,
qu'il n'y en a que six, de fait. En effet, vous avez raison, Père, merci, ces précisions qui confirment mon idéologie. Eh bien, et pour le Père Marie-Eugène, il y a un don du Saint-Esprit, c'est-à-dire, ce que dit Saint Jean de la Croix, l'influence du Saint-Esprit. Donc, que nous, on voit par ses effets de force, de crainte, etc. Et donc, ça se rejoint très bien, hein, parce que l'Esprit Saint est un, et il est un de la Trinité, donc c'est normal que tout soit un. Et oui, c'est Dieu. Dieu projette son unité partout, sur toute sa création. Et cette unité qu'il est, il y appelle toute la création et toute l'Église. C'est-à-dire l'unité et l'obsession de Dieu. Pourquoi il y a un seul peuple élu? Pourquoi, vous voyez, hein? Et donc... Je reprends ce que vous dites, mais je le retourne. Est-ce que ça peut aller? Non, vous êtes...
Oui,
ça peut aller?
Oui,
vous ne seriez pas contre, quoi.
Non.
Voilà, ben oui. Au fond, il y a de ça, et je pense que ça va. Jean de la Croix le prépare très nettement avec le symbole suivant, des obombrations, mais en présentant Marie, couverte de l'ombre de l'Esprit. Car le mot dans l'Évangile en latin, c'est obumbravite spiritus sanctus. L'Esprit Saint te couvrira de son ombre. Obumbravite en latin, dans la Vulgate. C'est pour ça qu'il parle d'obombration, ce terme un petit peu barbare. Et donc il y a des obombrations et puis tout d'un coup c'est Marie, donc c'est l'Esprit, c'est l'ombre de l'Esprit, tout simplement. Hein? Uniquement, tout bonnement. Ouais, vous voyez ça? Ouais. Je crois que, et c'est quand même une grosse insistance de Saint Jean de la Croix, paragraphe 3 notamment, j'ai relevé cette unité, cette simplicité, celle des personnes divines. Tout cela, c'est les trois personnes ensemble et chacune d'elles en particulier. Il est vrai que notre théologie trinitaire, je reviens à notre tentation permanente de trithéisme, il faut toujours corriger et revenir à l'unité divine quand nous posons les trois. Donc, voilà. Ça peut aller, Alexis?
Oui.
On va comme ça, hein? Bien. Donc, l'âme sent cela et nous allons lire. Parce que là, je crois que c'est un très beau texte et on sent une jubilation chez Jean de la Croix de ce personnalisme. C'est vraiment l'esprit qui se joint à notre esprit pour attester. Voilà. Alors, lisons cette deuxième partie du paragraphe 6. Et là, ce n'est pas au niveau filial, ce n'est pas pour attester que nous sommes enfants. Là, c'est au niveau sponsal. Donc, voilà. Alors, on peut y aller? Vous l'avez, Alexis?
Je n'ai pas le numéro de paragraphe. C'est Moïse.
Ah, mais vous avez cette espèce de traduction sublime et littéraire de Cyprien de la Nativité du XVIIe siècle, qui est la plus exacte, mais elle est franchement illisible pour les Français d'aujourd'hui.
On s'habitue, hein, forcément.
Oui, il faut vraiment s'y habituer. Mais il faut avoir lu un peu Pascal, Descartes, François de Sales, et tout ça. Quand on a lu un peu Montaigne et tout ça, bon, là, on y arrive, oui.
Mais, sinon... C'est la Sainte Écriture, c'est ça?
Toutes ces lampes de feu, des connaissances de Dieu, qui est aimable et amoureux, alors ça devient tu. Brille à toi, ô âme enrichie. Ce n'est pas ça? Oui, c'est paragraphe 6, mais le deuxième. Mais c'est après le petit alinéa de Genèse. Après la citation de Genèse 15, 12, 17, c'est juste après. Bon, allez, lisez-nous un petit peu ce morceau de bravoure, là, ça va nous... On va spammer un peu, là. Mais c'est une traduction, je vous signale que Paul Valéry, le grand poète français, aimait beaucoup. Hein. Il y a eu une intervention de M. Dominique Ponneau, que vous connaissez, au Studium, qui a étudié comment Paul Valéry avait reçu cette traduction de Cyprien. Il y a une conférence dans le colloque du centenaire de Jean de la Croix en 1991, je vous y renvoie. Donc, ce n'est pas du tout banal ce que nous écoutons.
La Sainte Écriture raconte qu'un de ces flambeaux passa jadis devant les yeux d'Abraham et lui causa une très grande et ténébreuse frayeur. Parce que c'était un flambeau de la justice rigoureuse que Dieu devait faire des Cananéens.
Voilà. Donc, justice, miséricorde. Hein? Voilà.
Mais combien plus aimablement et amoureusement tous ces flambeaux de la connaissance de Dieu luisent-ils à tes yeux, ô âme enrichie? Combien plus grande lumière et plus grand contentement d'amour te donneront-ils que celui-là ne donna d'honneur et de ténèbres à Abraham?
D'horreur, hein, pas d'honneur, s'il vous plaît.
D'horreur. Oui,
d'accord. Hein.
Et combien grand, combien avantageux et de combien de sortes sera ton contentement, puisque tu reçois jouissance et amour en tous et de tous ces flambeaux, Dieu se communiquant à tes puissances selon tes attributs et ses vertus. Parce que quand quelqu'un aime un autre, on lui fait du bien, il lui fait du bien et l'aime selon sa condition et selon les propriétés qu'il a en soi. Et ainsi, ton époux, étant en toi, te départit ses grâces selon ce qu'il est. C'est pourquoi, étant tout puissant, il te fait du bien et t'aime avec toute puissance. Étant sage, tu sens qu'il t'aime et te fait du bien avec sagesse. Étant infiniment bon, tu sens qu'il t'aime avec bonté. Étant saint, tu sens qu'il t'aime et te fait des grâces avec sainteté. Étant juste, tu sens qu'il t'aime et te fait justement du bien. étant miséricordieux, pitoyable et clément.
Pitoyable, là, c'est un peu plus ennuyeux en français moderne. Hein. Compatissant plutôt, hein. Piadoso, oui.
Tu sens sa miséricorde, sa pitié, oui, et sa clémence. Mm-hmm. Étant puissant, élevé et délicat, tu sens qu'il t'aime d'un amour puissant, élevé et délicat. Comme il est net et pur, tu sens qu'il t'aime avec pureté et netteté. Et comme il est véritable, tu sens qu'il t'aime vraiment. Étant libéral, tu reconnais qu'il t'aime et te départit ses grâces avec libéralité, sans aucun intérêt, mais seulement pour te faire du bien.
L'amour ne cherche pas son intérêt, vous rappelez ? 1 Corinthiens 13, 5.
Mais comme il est la vertu de la souveraine humilité, il t'aime avec une souveraine humilité et avec une souveraine estime pour toi.
Ah, ça c'est magnifique, hein, ouais, c'est ça.
Et te rendant égal à soi, se découvrant lui-même à toi avec allégresse, par le moyen de toutes ses connaissances, avec son visage plein de grâce, te déclarant en cette union, non sans grande jubilation de ta part, je suis à toi et pour toi, je prends plaisir d'être ce que je suis, afin d'être à toi et de me donner à toi.
Bien, voyez ce je et ce tu, hein, voilà, de l'amitié, hein, de l'amour sponsal. Bon, ça va, on peut continuer. Bon, je crois que ça va bien, là, ce que je vous avais donné en résumé, ça va. Je vous ai mis qu'au paragraphe 8, on retrouve la symbolique de l'eau. On va peut-être pas trop s'étendre. Mais c'est assez intéressant, on l'avait déjà dans la strophe 1, vous vous souvenez. Il marquait cette diffusion, cette surabondance, cette douceur, cette fraîcheur intérieure, cette communication. Hein? Donc là, elle se mêle avec celle du feu. Pour signifier l'expansion, le rayonnement, l'éclatement. Bien, donc ces lampes de feu, en conclusion, suggèrent une richesse inépuisable de perfection. Richesse, perfection, simplicité s'allient en Dieu. Et cela suscite l'admiration du saint. Donc retenons bien que tout ce qui est en Dieu est Dieu. Tout ce qui est en Dieu est Dieu. Tandis que moi, si je suis bon une fois. Ça veut pas dire que, hein, voilà, bon, enfin, je suis bon une fois de temps en temps. Mais c'est en moi, mais ça ne veut pas dire que c'est moi. Hein, je ne suis pas la bonté par essence. Voilà. Hein. Bien. Donc, cette admiration de Jean de la Croix, hein, il va la reprendre donc, au paragraphe 17. Donc, vous voyez, c'est la constante chez lui. Alors, nous allons entrer... voilà, j'ai dit essentiel. Maintenant, dans les ombrations, les splendeurs et les ombrations primor et obumbraciones. Donc, c'est les paragraphes 9 à 17. Quelques notations. Page 981 et suivante. Donc, il reprend la chevrille, il dit la même chose, mais avec un autre symbole. Hein? Qu'est-ce que c'est que ces splendeurs dont l'âme est revêtue, hein? Donc, on va prendre le vers. Dans les splendeurs desquels, j'aime bien la traduction, c'est comme ça, c'est dans les splendeurs desquels. En cuyos resplandores. Dans les splendeurs desquels, on est là-bas. C'est pas d'une grande élégance, d'une grande beauté. Bon, c'est comme ça, dans les splendeurs desquels. Bon. Donc, ces splendeurs, qu'est-ce que c'est? Ce sont des connaissances pleines d'amour, des reflets, des projections, des perfections divines, un rayonnement de la simplicité divine. Mais déjà, il y a une dimension eschatologique, c'est un élan vers la gloire. Alors ensuite, vous avez au paragraphe 12, je vais m'arrêter un tout petit peu à ça, puis on va lire un peu. Nous passons de l'éclat à l'ombre, mais c'est une ombre lumineuse. Hein? Faire ombre. Donc la référence est l'action de Dieu en Marie pour l'incarnation, référence néo-testamentaire cette fois, alors qu'on n'avait que des textes de l'Ancien Testament auparavant. Hein? s'agit de faire ombre, de prendre sous son ombre, dans sa grâce et dans sa faveur. L'âme entre dans cette ombre des perfections divines. Elle participe à la nature de ces lampes de feu qui émanent des perfections divines. Elle comprend et elle goûte. C'est le don de sagesse. Et là encore, c'est tout Dieu qui est dans ces obombrations. Cette symbolique de l'ombre, évidemment, d'une part, avec l'évangile de l'Annonciation, nous sommes entrés dans la douceur du Nouveau Testament. Il l'avait déjà dit au paragraphe 6 qu'on vient de lire. Alors que l'Ancien Testament, c'était des traits de feu et de la justice de Dieu. Donc il y a quelque chose de la douceur et de la miséricorde révélée dans le Nouveau Testament. Mais il y a aussi, en même temps, place à la transcendance, à l'incompréhensibilité de Dieu, au mystère même de Dieu. Et il souligne bien au paragraphe 14 que l'âme, ici-bas, ne peut pas le comprendre parfaitement. Donc, avec cette ombre, il y a quelque chose qui échappe à l'âme. Il y a, et c'est au paragraphe 16, la perception d'une immensité divine. Dieu est immense. Ça, c'est une grande perception de Jean de la Croix. Et c'est tout à fait étonnant, paradoxal, antinomique, car cette présence d'obombration en soi, elle exprime une proximité, une intimité, une délicatesse, la délicatesse du Nouveau Testament. Et en même temps, c'est la perception d'une immense richesse, d'une immensité divine. Chacune de ces obombrations, c'est tout Dieu, c'est toute la richesse de Dieu. Je pense que nous pourrions lire le paragraphe 12 au moins, puis 17. Ça va ? Puis on fera la pause. Alors, on peut y aller, allons-y, oui. Gabriel.
Ce que nous venons de dire et ce que nous allons exposer nous fera comprendre plus clairement toute l'excellence des splendeurs de ces lampes dont nous parlons et qu'on peut appeler aussi des obombrations. Mm-hmm.
Donc c'est dans le prolongement des lampes, c'est le rayonnement des lampes encore. Les lampes sont déjà le rayonnement des attributs de Dieu. Voilà, donc c'est cette espèce de répercussion.
Pour l'intelligence de cette assertion, il faut savoir que l'obombration n'est autre chose que l'action qui produit l'ombre. Et cette action équivaut à celle de protéger, favoriser, accorder des grâces.
Eh oui, c'est ça la grâce. Eh oui. L'ombre de l'Esprit Saint, c'est le don de la grâce. Eh oui.
Car si une personne recouvre une autre de son ombre, c'est un signe qu'elle est près d'elle pour la favoriser et la protéger. Mm-hmm. Voilà pourquoi, voulant désigner l'insigne faveur qui fut accordée à la Vierge Marie, lorsque le Fils de Dieu s'incarna en elle, l'ange Gabriel l'appelle une obombration de l'Esprit Saint. Il dit en effet, l'Esprit Saint surviendra en vous, et la vertu du Très-Haut vous couvrira de son nom.
Bien, alors passons au 17. Ah oui, juste avant les profondes cavernes.
Ô excellence de Dieu.
Oui, ô admirable excellence de Dieu, oui.
Ô excellence de Dieu, que vous êtes admirable.
Oh. Oh. Ô admirable excellence de Dieu, d'accord, oui.
Bien que ces lampes des attributs divins ne soient qu'un être simple et ne se goûtent qu'en lui. Mm-hmm. Chacune d'elles se voit et se goûte d'une manière distincte, aussi embrasée l'une que l'autre, car chacune d'elles est substantiellement. Mm-hmm. Ô abîme de délices, vous êtes d'autant plus riche que vos trésors sont plus cachés dans votre unité et simplicité infinie. Là, on connaît et on goûte l'un de vos attributs sans nuire à la connaissance et au goût parfait que l'on a de l'autre. Chaque grâce ou chaque lumière qu'il y a en vous est aussi la lumière de chacune de vos autres grandeurs.
chaque grâce ou vertu. Ce n'est pas lumière, oui. Virtus. Bon, évidemment, le texte espagnol est en tu, hein, bien sûr.
Parce que votre pureté, ô sagesse divine, beaucoup de choses se voient en vous, quand on en voit une. Vous êtes en effet le dépôt des trésors du Père. Vous êtes la splendeur de la lumière éternelle, le miroir sans tache et l'image de sa bonté, dans les splendeurs desquelles.
Et là, vous voyez donc, nous nous adressons, il s'adresse, l'âme s'adresse à la sagesse divine, hein, au Verbe de Dieu, hein, le trésor, le dépôt des trésors du Père. Voilà. Et c'est le vocabulaire du livre de la sagesse qui est repris, qu'on avait déjà perçu dans la strophe 2, hein, avec sagesse subtile, ténue, etc. Donc, les livres sapientiaux sont derrière ces textes aussi. Hein. Ça vaudrait le coup d'étudier ça. Je pense que le Père Lefebvre pourrait faire une étude approfondie de cette question. On pourrait lui suggérer, qu'en pensez-vous, de voir les références implicites aux écrits de sagesse. Non, ce serait bien. Hein. Ah oui, certainement. Bien, donc voilà, vous avez un petit peu cet ensemble-là, splendeur et obombration. Donc l'homme est pris du dedans, il est enveloppé dans la splendeur de Dieu. Il ne s'agit pas d'une lumière matérielle qui l'éclairerait de l'extérieur, mais l'âme est plongée dans cette splendeur, en cuyos resplandores, à l'intérieur desquels elle se trouve. J'ai trouvé intéressant dans l'enseignement du Père Marie-Eugène, à la fois oral mais aussi dans Je veux voir Dieu, page 985-86, ces splendeurs, il dit, que ce sont les reflets lumineux qui enveloppent l'âme et émanent d'elle, enveloppée et elle émane, ça émane d'elle, donc elle les réfléchit, qui sont des propriétés perfections de Dieu, symbolisent les richesses de la grâce qui s'étalent dans les personnes, sous des tonalités, des effets divers, tout en restant une unique, la même substantiellement. Les splendeurs, qu'il va maintenant appeler ombres lumineuses, ne diffèrent pas de la source dont elles émanent, sinon par l'intensité. Donc, quelque chose des richesses de la grâce. Donc, ça c'est le charisme du Père Marie-Eugène, son point de vue, toujours au niveau de la théologie, de ramener ça à la théologie de la grâce. La grâce justifiante et sanctifiante, baptismale. Voilà, mais ça permet aussi de comprendre plus facilement, c'est sûr, c'est une porte d'accès. Symbolise les richesses de la grâce qui s'étalent dans les personnes sous des tonalités, des effets divers, tout en restant une, unique, la même substantiellement. Ces ombres lumineuses ne diffèrent pas de la source dont elles émanent, sinon par l'intensité. Oui, Marc ? Alors, dans Je veux voir Dieu, page 985-986. Alors, évidemment, et le Père Marie-Eugène le dit aussi, parce qu'il a beaucoup travaillé les lampes de feu, j'ai eu un petit dossier, justement, dans un certain nombre de retraites qu'il a prêchées, et puis il y a Je veux voir Dieu, mais on sent que ça l'habitait beaucoup. Il montre bien, et je ne l'ai peut-être pas assez dit, Jean de la Croix le fait comprendre, ces lampes et ces splendeurs, en tout cas, sont des effets créés. Jean de la Croix dit bien que l'intensité est moins grande que les attributs divins. Donc, on voit que ce sont des effets créés. Mais, évidemment, ces effets créés émanent des perfections divines. Donc, il faut bien garder le lien. Mais au fond, c'est une participation pour nous, avec un autre point de vue, le point de vue de la théologie de la participation, une participation des attributs divins. Nous participons aux perfections divines et nous les participer, ça veut dire réaliser partiellement et ça veut dire aussi refléter, hein, et traduire et réfléchir et transmettre. C'est ça la participation. Voilà, bon, je crois que là on a quelque chose d'assez riche, non, me semble-t-il. Alors, ah oui, bon. En effet, ce serait bien que je finisse avec ça. Ben oui, finalement, j'ai le droit de vous donner la pause que dans 5 minutes. Bien. Alors, le troisième point, ce sont les cavernes. J'ai déjà un petit peu évoqué. Hein. Et dans la feuille que je vous donne, c'est très développé. donc je ne vais pas être trop long, les cavernes du sens. Il faudra que vous lisiez absolument 18 à 22. Et ensuite le paragraphe 28. Ça va ? Le 28, on va le faire parce que c'est la transition. Donc il faudra que vous lisiez 18 à 22 absolument. Ces profondes cavernes du sens, qu'est-ce que ça vient faire le sens ? Ce n'est pas le même sens que dans la montée du Carmel. Le sens opposé à l'esprit. Ici, le sens, c'est le sens de l'âme. Donc l'âme a un sens. La vie a un sens, oui ou non, la vie humaine a-t-elle un sens ? Et l'homme a-t-il une destinée, je cite ? Ah, très bien, ça va, vous êtes bien au parfum. Donc, les profondeurs de l'âme sont désignées par ces puissances qui opèrent le contact avec la présence de Dieu, qui reçoivent le rayonnement de ses perfections, de ses attributs. Le symbole de la caverne profonde, il était déjà dans le cantique, à la strophe 37. C'était les cavernes de la pierre, c'était les très hauts et profonds mystères de la sagesse de Dieu dans le Christ. Ici, ces cavernes, ce sont les trois puissances aux facultés de l'âme. On est toujours dans la ligne de la distinction augustinienne et bonaventurienne et bernardienne, ou bernardine, je ne sais pas, enfin, Saint Augustin, Saint Bernard et Saint Bonaventure. Voilà, les trois puissances, donc ça c'est clair. Ces trois puissances dans leur capacité d'infini. Car ces puissances sont creusées par ces obombrations et par ce rayonnement des perfections divines. Donc l'âme se creuse, l'âme est creusée, elle s'approfondit, elle est approfondie. Et voilà que va se définir un sens de l'âme. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire, il va l'expliquer véritablement au paragraphe 69, c'est-à-dire beaucoup plus tard. Qu'est-ce que ça veut dire, ce sens de l'âme ? Eh bien, il prend la symbolique des cavernes, puis après, il prend la symbolique de l'estomac. Il y a un estomac de l'âme. Vous vous rappelez qu'on avait vu un palais dans la strophe 1. Donc, ça commence par le palais, et ça descend dans l'estomac. Donc, on arrive au plus profond de l'âme. D'accord ? C'est de la physiologie, hein, c'est de la... Bon. Donc, pourquoi ? Eh bien, c'est très intéressant. L'âme a un estomac. Parce que, qu'est-ce que c'est que le sens de l'âme ? Au fond, il va s'affirmer comme une fin de Dieu. Qu'est-ce que ces obombrations produisent en nous, sinon un affinement, sinon une fin de Dieu qui se creuse au fil des étapes de l'union ? Il y a un vide, une soif, une fin de Dieu. L'âme a faim de cet aliment qu'est Dieu. Le sens de l'âme va se dévoiler comme désir, comme attente de Dieu, passionnée, véhémente, car il y a une impatience de l'amour qui aspire à la pleine communication et à la pleine union. Posséder Dieu par grâce, ça ne suffit pas. Il faut le posséder par union d'amour. C'est un autre seuil, une autre étape. Donc là, on voit que Jean de la Croix revient un peu aux étapes, aux seuils de la grâce qu'il avait précisé dans le Cantique spirituel. Là, c'est un petit rappel du Cantique spirituel, paragraphe 22-24. Voilà. Nous pouvons faire la pause maintenant. J'accueillerai vos questions, hein, vos commentaires. Hein. Voilà. Ah, merci beaucoup.